Secours populaire, tout ce qui est humain est nôtre.
Le quart d'heure solidaire, chronique du Secours populaire de l'Ain. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Jean-Claude qui vous parle et qui est content, au nom du Secours populaire, d'accueillir pour cette première chronique Jean-Paul, notre trésorier départemental. Alors cette première rencontre avec les médias, on va dire, aura pour but surtout de donner les grandes lignes de ce mouvement maintenant ancien. Et je vais donc tout de suite m'adresser à Jean-Paul pour lui demander assez rapidement de nous rappeler quelles sont les principales valeurs de ce mouvement dédié tout entier à la solidarité.
Bonjour à toutes et tous. Bonjour Jean-Claude. Merci de m'accueillir. Alors, si on voulait résumer en un mot le Secours populaire français, tu l'as évoqué, on parlerait de solidarité. De solidarité et de mouvement. Puisque le Secours populaire, au-delà d'une association, c'est un mouvement. C'est-à-dire qu'à la fois, il rassemble des gens de bonne volonté, mais vous me direz comme toutes les associations, mais dont l'objet, c'est de pratiquer la solidarité et de la pratiquer en la mettant en action. Alors, je voudrais faire un petit point, parce que souvent, on parle des associations caritatives. Les mots ayant du sens. À proprement parler, le Secours populaire n'est pas une association caritative parce qu'il ne pratique pas la charité. Il met, encore une fois, en œuvre une solidarité, c'est-à-dire un rapport d'égal à égal, sachant que aujourd'hui nous sommes solidaires entre nous, collectivement, et c'est ce qui fait la force de ce mouvement.
Voilà qui est très clair. Par contre, quand on parle de secours populaire, bon, on sait que ça existe au niveau local, on sait que ça existe au niveau départemental, au niveau national. Est-ce que tu peux refaire, sans rentrer bien sûr dans une histoire de ce mouvement, nous donner les grandes lignes de son organisation territoriale?
Alors, le secours populaire, c'est un mouvement effectivement qui est national. Alors, on ne va pas faire toute l'histoire aujourd'hui, mais qui est issue de 1945, même s'il existait auparavant. Ce mouvement national, il a un rayonnement qui est mondial, parce qu'on pratique aussi une solidarité qui est mondiale, et il va se décliner plus localement à l'échelon des départements. Et si on prend précisément le département de l'Ain, on va avoir, en termes de structure sur le département, une fédération qui est à Bourg-en-Bresse, 4 comités, donc un comité à Ambérieu-en-Bugey, un à Bellegarde, un à Belley, et le quatrième qui est à Hauteville. Et on a 3 structures beaucoup plus légères qu'on appelle des antennes. Donc on a une antenne qui est à Montréal-Lacluse, une antenne sur les Pays de Gex, et puis depuis juin 2023, ce qu'on appelle une antenne mobile, c'est-à-dire un solidaribus qui fait de l'accueil et qui se déplace plutôt sur des communes du Val-de-Saône. Donc voilà pour l'implantation des structures.
C'est important de le savoir parce qu'on a quand même souvent des demandes. Enfin, moi, ça m'arrive dans ma commune de rencontrer des gens qui s'adressent à moi en me disant « Tiens, j'aimerais bien donner ou j'aimerais bien faire ». Et il fallait éclaircir tout ça. Alors, on vient de parler des structures. Maintenant, est-ce qu'on ne pourrait pas parler des gens? Parce que c'est quand même ce qui fait une de nos grandes caractéristiques, c'est l'importance en nombre, et je dirais, et en bonne volonté et en efficacité, soyons pas toujours modestes, des gens qui œuvrent de manière bénévole et bien sûr de manière professionnelle. Alors, tu peux nous dire un petit peu, là, nous résumer sur l'Ain, comment ça se passe?
Ben, sur l'Ain, il faut bien considérer que l'essentiel des équipes qui travaillent sont des équipes de bénévoles. Et sur ce point, je vais y revenir juste après. Pour le département, en fait, il y a 2 salariés qui sont intégrés au niveau de la fédération. C'est-à-dire un endroit où on a, en termes de gestion des projets, des actions, etc., le plus de travail. Alors, je veux juste revenir sur le terme de bénévole. Il y a une particularité au niveau du secours populaire, c'est que nos bénévoles, ils sont collecteur, animateur, bénévole. Alors, pourquoi collecteur ? Parce que pour pratiquer la solidarité, une solidarité généraliste et sur laquelle on reviendra sans doute, il faut s'en donner les moyens. Et les moyens qu'on se donne, on les trouve par nous-mêmes en faisant ce qu'on appelle de la collecte. Alors, c'est très général, la collecte. Hein. Ça passe par aller sur un marché, proposer aux gens de nous donner quelques pièces. C'est aussi aller voir des magasins, des grandes surfaces et organiser des collectes de denrées alimentaires. C'est de la collecte financière auprès d'entreprises, etc. Et il faut savoir que cet aspect qui permet au Secours populaire d'avoir une indépendance est très important. Donc, chez chaque bénévole, il y a d'entrée un collecteur, c'est-à-dire quelqu'un qui a dans sa mission de bénévole le fait de se donner les moyens d'agir pour la solidarité.
D'accord. Alors, cette solidarité, on va voir qu'elle s'exerce dans des domaines très différents. À titre personnel, moi, j'ai connu vraiment le Secours... Comment connu le Secours populaire à région lyonnaise, à Lyon et banlieue, il y a quelques dizaines d'années. Pour moi, le Secours populaire, c'était de l'aide alimentaire et de l'aide aux devoirs. Mais force est de reconnaître qu'à Bourg-en-Bresse, c'est très différent, que les actions sont multiples, excessivement variées. Alors, la solidarité, elle s'exerce donc sur le plan alimentaire, sur plan éventuellement d'aide scolaire, l'accompagnement des droits, l'accès à la culture, etc. Est-ce que tu peux nous refaire un petit peu un petit inventaire de tout ça assez rapidement, mais assez précis quand même, parce qu'il y a des actions qui sont marquantes à Bourg, notamment.
À Bourg et sur le plan national. Alors, un petit mot effectivement sur l'aide ou l'accompagnement, sur l'aide alimentaire. Il est évident que c'est ce qui est le plus visible. Et il faut bien reconnaître, et tout le monde le sait, que l'urgence alimentaire, c'est la première des urgences. C'est-à-dire quand on n'a plus rien dans le frigo, eh bien là, on bouge et puis on vient peut-être pousser la porte du Secours populaire ou d'autres associations. Donc, c'est ce qu'on appellerait un point d'entrée. Et effectivement, extérieurement, parfois, les gens se disent c'est une association qui fait de la distribution alimentaire. Or, le Secours populaire est une association généraliste. Au-delà de ce point d'entrée, on va pratiquer ce qu'on appelle un accueil, c'est-à-dire qu'on va prendre le temps avec les personnes qui ont poussé la porte pour voir s'ils n'ont pas d'autres besoins et si on ne peut pas les accompagner effectivement au niveau d'autres activités, actions. Tu l'as évoqué, ça va être de l'accompagnement pour des devoirs, ça va être aussi tout ce qui concerne les sports, loisirs, culture, c'est très important. On ne fait pas que nourrir les gens, il faut les nourrir dans l'ensemble et dans la globalité de leur personne humaine et de leur humanité. Et donc, il y a toutes ces dimensions qu'on va essayer de mettre en action. Au-delà de ça, il y a un certain nombre de grandes campagnes qui sont nationales et donc qui sont déclinées sur le département qu'on va retrouver toutes les années. On vient de passer l'été et il y a une action qui s'appelle la JOV, la Journée des oubliés des vacances, que la plupart d'entre vous devez connaître, puisqu'il y a à chaque fois un grand reportage média sur les enfants qui partent en train pour aller sur une plage. On va bientôt être au niveau des fêtes de fin d'année, et on va avoir une campagne qui s'appelle les Pères Noël Verts. Donc vous voyez, toute l'année va être rythmée avec des actions à destination des personnes qu'on accueille, mais dans toutes les dimensions, encore une fois, de leur vie.
D'accord. Un petit inventaire sur Bourg, précisément pour ce qui se passe. Donc, tu as parlé des Pères Noël Verts bientôt. Ensuite, on a une action, si mes souvenirs sont bons, en janvier. Ensuite, on a la chasse aux œufs, qui connaît d'ailleurs beaucoup de succès.
Oui, parce qu'elle est ouverte à tous, en fait. Et ça fait 2 ans qu'elle se pratique, enfin, qu'elle est mise en place au domaine de la garde. Et on remercie encore toute l'équipe qui accueille le Secours populaire au domaine de la garde, donc dans un lieu assez privilégié, et qui permet de dérouler une chasse aux œufs. Alors, pour les enfants accueillis au Secours populaire et bien au-delà, et qui rencontrent beaucoup de succès.
Alors, ensuite, on a dans les autres manifestations, bon, les vacances, je ne reparle pas parce que tu as évoqué la JOV, les oubliés de la culture, une semaine quand même intense qui se situe toujours fin juillet et qui a été notamment marquée cette année par la présentation d'un excellent spectacle. Remercions à ce sujet-là le bénévole d'Hauteville, Christophe, pour ne pas le nommer, qui l'avait choisi. Voilà, alors je pense qu'on va pouvoir maintenant parler du futur très proche. Est-ce que tu as des choses à nous dire pour les jours, voire les semaines qui viennent ?
Bien, je pense que tu en seras d'accord parce que tu t'en occupes un petit peu. On a une grande braderie, automne-hiver qui va se dérouler à la salle des fêtes de Bourg-en-Bresse le 30 novembre. Alors, ces braderies, c'est un moment de collecte. Hein. Je reboucle un petit peu sur ce qu'on avait évoqué au tout début. C'est un moment de collecte. Et le rapport entre ce que l'on collecte financièrement est très directement lié, par exemple, à l'action culturelle qui est la semaine des oubliés de la culture. Puisque cette semaine, elle est financée en très grande partie, par les fonds qui sont collectés à l'occasion de ces braderies. Donc vous voyez que le fait d'aller chercher des ressources financières nous permet après de mettre en place des actions de solidarité.
C'est très clair. Parlons maintenant de notre positionnement. Ça sera peut-être une des dernières questions, mais c'est une chose qui me paraît importante. Quel est notre positionnement par rapport aux autres associations qui œuvrent, on va dire, de près ou de loin, qu'elles soient caritatives ou non, comme c'est notre cas puisqu'on n'est pas, qui œuvrent vers la solidarité. Est-ce que la notion d'indépendance, c'est une des clés du secours populaire?
Ah, je dirais que c'est une des valeurs cardinales. Alors, l'indépendance, c'est une indépendance de tout ce qui peut être philosophique, politique, religieux. C'est aussi une indépendance au regard des pouvoirs publics. On se définit plutôt comme le secours populaire, hein, se définit comme une association qui est plutôt un aiguillon des pouvoirs publics, hein, qui va être là pour appuyer un petit peu là où ça fait mal et puis essayer de remettre en cause certaines orientations. Mais effectivement, l'indépendance, elle a un coût qui est financier. Alors, pour vous donner un exemple sur le département, en termes de ressources, la partie subvention, donc à tout niveau, au maximum, c'est 12% des ressources. En prévision pour 2025, dans le contexte que tout le monde connaît, on est à 7%. Et le reste, eh bien, ça sera à peu près équitablement réparti entre nos donateurs, donc les gens, personnes privées, les entreprises, etc., qui font des dons. Et l'autre partie, c'est le résultat d'un petit peu toutes les actions qui sont mises en place, celles, par exemple, que j'évoquais, qui concernent les braderies. Donc, vous voyez que cette indépendance financière nous permet aussi d'avancer libre et de pratiquer ce qu'on appelle, nous, un accueil inconditionnel, c'est-à-dire un accueil qui ne se pose pas des questions sur l'origine, les causalités de la venue d'une personne qui va pousser notre porte.
Alors, juste avant de se quitter, parce que l'heure tourne, comme on dit, indépendance, oui, mais on ne va pas se voiler la face. L'actualité des dernières années nous a montré qu'un certain parti qui brigue d'ailleurs les plus hautes responsabilités françaises s'est opposé violemment à certaines fédérations du secours populaire, notamment dans l'Est. Alors, on est bien obligé de reconnaître qu'on a, si on n'a pas un positionnement politique, on est quand même assez clair sur certaines valeurs politiques et non pas qu'humaines, quoi.
Moi, j'aurais tendance à dire que si on est clair sur nos valeurs humaines, la conséquence politique en découle directement. Je pense que chacun assume ses idées, ses orientations, ses choix politiques ou autres. Quand on est au Secours populaire, on a effectivement face à nous l'humain. Et les valeurs qu'on défend à ce moment-là sont des valeurs d'humanité. Donc je rappelle la solidarité. C'est très important ce que tu évoquais par rapport aux pressions qui existent et qui ont toujours existé. Et c'est le gage aussi, à partir du moment où on est indépendant, que l'on saura résister à ces pressions. Donc je pense qu'on ne peut pas être plus clair que les gens qui ont besoin, envie de cette indépendance, surtout pensent bien qu'il y a une association dont c'est une des valeurs cardinales.
Eh bien, c'est ainsi que s'achève cette première chronique. Au revoir à tout le monde et au mois prochain.
Secours populaire, tout ce qui est humain est nôtre.
Le quart d'heure solidaire, chronique du Secours populaire de l'Ain.